أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Mes chers sœurs, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc cette nuit, je voudrais vous parler des sept dormants d'Éphèse. Et donc je me suis inspirée du Majalis en anglais de Sayyid Ammar et en même temps de la traduction qui est à l'intérieur de ce livre que je vous recommande parce qu'il est vraiment très intéressant. Et les différents sermons de Sayyid Ammar qui ont été mis là-dedans sont des sermons qui sont très vers l'interculturalité. Donc on parle de, par exemple, on compare Bibi Maryam avec Bibi Fatima Zahra. Il y a par exemple un chapitre sur le droit des voisins. Il y a un chapitre sur le voile dans le christianisme et dans l'islam, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont plus dans l'interculturalité. Il y a la notion de fraternité dans l'islam, etc. Donc ce sont des thèmes très, en fait, qui affectent tout le monde. D'ailleurs, ce livre est vendu en librairie aussi. Donc il est normalement supposé répondre aux questions de tout public, qu'ils soient musulmans ou pas, qu'ils soient chiites ou pas. Donc, je voudrais vous parler donc des Ashab et Kaf, donc les sept dormants d'Éphèse, pour une raison particulière au jour d'aujourd'hui, puisque nous célébrons le Shahadat de Bibi Sakina alayha salam. Et donc, c'est une histoire qui affecte les jeunes. Et c'est une histoire qui nous affecte, qui affecte chacun d'entre nous. Et même si c'est une histoire qui s'est déroulée il y a de nombreuses années, il y a beaucoup d'enseignements que nous pouvons tirer de ce récit. Et donc, justement, cela nous amène au fait que dans le Saint-Coran, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de récits. D'accord ? Et donc, quel est le rôle du récit ? Eh bien, il nous permet de mieux comprendre les choses. D'accord ? Et vous avez notamment la sourate 28 du Saint-Coran qui s'appelle Al-Qasas, qui veut dire le récit. Et à plusieurs moments dans le Saint-Coran, vous avez des anecdotes pour qu'on comprenne mieux les événements qui ont eu lieu. D'ailleurs, dans la Bible, Dieu a recours aux paraboles pour guider les adeptes du christianisme. Et certains savants des temps modernes utilisent justement des récits pour faire le tabligh, pour expliquer les choses aux gens. Vous avez notamment Ayatollah Murtaza Mutahhari, qui a écrit de nombreux ouvrages qui sont aussi en français. Hein. Vous avez donc un livre de lui qui est Anecdotes des gens pieux, Anecdotes of Pious Men. Ensuite, vous avez Ayatollah Desterey, qui a écrit Al-Qusasul Ajiba, donc les récits étranges, extraordinaires, formidables, etc. Vous avez Bint al-Huda, la sœur de Sayyid Mohamed Bakir al-Sadr, qui a aussi dans ses ouvrages fait appel à beaucoup d'anecdotes, beaucoup de récits pour justement transmettre le message vers ses lecteurs. Alors, cette histoire est tellement puissante et pleine d'enseignements qu'on en a fait un film. D'ailleurs, il y a eu ces dernières années un élan et une reproduction, une production de différents récits. Vous avez eu le fameux film en plusieurs épisodes sur Imam Ali alayhi salam, donc il retrace toute sa vie et tous les événements de sa vie. Vous avez eu l'histoire de Imam Ali alayhi salam qui est en film aussi. Et vous avez eu l'histoire de Imam Reza alayhi salam, donc en plusieurs épisodes, et vous retrouvez toutes ces histoires-là. Il me semble qu'ils sont tous sous-titrés en français. Vous les trouvez sur YouTube en plusieurs épisodes. Et c'est quelque chose de très intéressant, puisque d'ailleurs, certains livres sont mis en film et vous voyez que l'impact est différent. Puisque quand on voit les choses qui sont représentées, on a une autre vision du livre qui est justement mis en film. Et donc c'est très intéressant puisque on comprend mieux les choses. Et donc l'histoire des gens de la caverne a été aussi mise en film. Mais là je ne garantis pas, apparemment il y a quelque chose c'est écrit version arabe, mais je ne sais pas s'il y a des sous-titres en France. Alors, donc, l'histoire des sept dormants d'Éphèse nous permet aussi d'ouvrir le dialogue interreligieux, puisque c'est une histoire qu'on le retrouve dans le christianisme. Et donc, c'est quelque chose qu'on a en commun avec les chrétiens, et ça nous permet donc de dialoguer avec eux sur ce récit-là. Alors, lorsque nous regardons le martyrologe romain, nous voyons que le 27 juillet, c'est le jour où l'on commémore justement les saints, les martyrs, donc les sept dormants d'Éphèse, d'accord. Lorsque nous regardons le calendrier byzantin, on retrouve deux dates aussi, le 4 août et le 22 octobre, qui sont des dates de commémoration de ces personnalités. Donc, si on regarde bien, c'est quelque chose que l'on retrouve dans le christianisme. D'ailleurs, au musée britannique, d'accord, vous trouvez le manuscrit relatant le récit des sept dormants d'Éphèse. C'est le récit original, d'accord. Et donc, il est disponible dans le British Museum. Alors, en fait, à l'origine, l'histoire des sept dormants d'Éphèse n'était pas dans la Bible. À l'origine, il a été rapporté par un prêtre syrien, et donc qui s'appelait Jack. Et ensuite, à l'origine, ça a été repris donc par par ce livre-là, hein, par Saint Georges de Tours, je crois, et c'est le livre À la gloire des martyrs. Donc, au début, ce n'était pas dans la Bible, et c'est ensuite que c'est apparu dans la Bible. Alors, c'est une histoire qui permet aux jeunes de notre communauté d'avoir un précédent, de se rendre compte de la situation de ces jeunes qui, justement, sont restés fermes dans la religion alors qu'ils étaient entourés d'idolâtres et d'un roi qui était très sévère. Et comment est-ce qu'ils sont restés fermes à la religion et qu'ils ont formé un groupe très solide, très uni pour justement rester dans la religion. Et donc, pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est justement une possibilité de se rendre compte de la façon dont on peut justement s'appuyer sur cet événement-là, sur ces personnalités. Alors, dans la Surat Kaf numéro 18, où on parle de ces Ashabul Kaf veut dire la caverne, la grotte, on parle donc d'un groupe de jeunes, d'accord. Et en fait, donc, il y a plusieurs versions de l'histoire. Certains disent qu'en fait, ils n'étaient pas jeunes, c'était des adultes, des personnes même un peu plus âgées, mais que Allah subhanahu wa ta'ala les cite comme jeunes parce qu'ils avaient la foi. D'accord. D'autres disent que comme ils avaient la foi, justement, Allah leur a redonné leur jeunesse. Donc, ils n'étaient pas jeunes, mais que Allah leur redonne la jeunesse tellement il est content de ce qu'ils font. Et puis, une dernière version est que, en réalité, c'est dans le sens littéral qu'il faut prendre le mot jeune ici, en réalité, c'était des jeunes. Et cette version-là paraît plus probable. D'accord. Donc, justement, ici, Allah subhanahu wa ta'ala insiste sur le fait que lorsqu'on reste ferme sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur la voie droite, alors Allah subhanahu wa ta'ala va nous guider, va nous aider. Et nous verrons d'ailleurs, quand nous relaterons l'histoire, comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala les a aidés dans leur foi. Alors, nous allons parler de ces différentes parties-là, mais je vais essayer d'écourter un peu puisqu'on a un peu pris du retard. Donc, quels sont les avantages de la récitation de la sourate? Pourquoi est-ce que cette sourate a été révélée? Où est-ce que l'événement a eu lieu et à quelle époque? Qu'est-il arrivé exactement aux sept dormants d'Éphèse? Quel était exactement le récit? Et puis, quels enseignements nous pouvons en tirer? Et surtout, pourquoi est-ce que le Soulallah racontait cette histoire-là aux jeunes de la communauté? Et qu'est-ce qu'il voulait justement, où est-ce qu'il voulait en venir? Alors, en tout premier lieu, donc, quels sont les avantages de la récitation de la Sourate Kaf, la Sourate numéro 18 du 5 au 1? Notre saint prophète a dit à ses compagnons, est-ce que vous voulez que je vous raconte le récit? Un récit pour lequel 70 000 anges ont été descendus. Et à ce moment-là, les compagnons ont demandé, Ya Rasulallah, de quel récit est-ce que vous voulez parler? Et à ce moment-là, il a dit qu'il s'agissait de l'histoire des sept dormants de Fès. Notre sixième imam, Imam Jafar Sadiq alayhi salam, a dit que celui qui récite la surat Kaf, eh bien, il se lèvera le jour du jugement, et quand il se lèvera le jour du jugement, il sera parmi le groupe des martyrs, de ceux qui ont donné leur vie pour la mission du prophète. Donc, tout en restant confortablement assis chez vous, en lisant simplement la surat Kaf, vous allez avoir le même rang, que le même statut que les martyrs qui sont allés à la guerre du temps du prophète. Alors notre saint prophète, il a déclaré que celui qui récitera régulièrement la surat Kaf, eh bien il ne sera pas tenté de rejoindre l'armée de Dajjal. Vous savez qu'on explique que Dajjal viendra avec son armée, qu'il attirera les gens pendant les derniers temps, au moment de la réapparition d'Imam Ezamana, et que lui, il aura ses partisans, tandis qu'Imam aura ses partisans. Et donc, même s'il y a plusieurs théories concernant le Dajjal, avant on disait que c'est quelqu'un qui est bon, et puis après on a commencé à dire que c'est peut-être simplement une idéologie, quoi qu'il en soit, on ne sera pas tenté d'aller dans ce camp adverse de Dima. Donc, pourquoi est-ce que cette sourate a été révélée? Nous avions vu, lors d'un précédent majalis, le fait que les Quraishites de Mecca, vous savez très bien qu'ils en voulaient au prophète et ils n'étaient pas du tout d'accord avec le fait que Rasulallah avait apporté cette nouvelle religion. Et donc ils trouvaient tous les moyens possibles et imaginables pour contrer, pour bloquer le message de Rasulallah. Et nous avions vu qu'ils avaient souvent l'appui des juifs, que les juifs essayaient de trouver des moyens pour aider les Quraishites à trouver des solutions pour faire le Hélan, pour annoncer à tout le peuple de Mecca comme quoi le saint prophète est un faux messie, est un faux prophète, et que finalement il n'en connaît pas plus. Donc ils essayaient de trouver des challenges, ils essayaient de trouver des défis pour justement couper cette mission, couper cette propagation de l'islam. Donc encore une fois, les juifs les ont portés main forte, les ont aidés. Et donc les Quraishites ont demandé aux juifs, donnez-nous, il y a sûrement dans vos récits, il y a sûrement dans vos livres des choses que Mohammed ignore, et donc on va essayer de le piéger. Et encore une fois, les juifs ont aidé le prophète en proposant donc trois questions, les juifs ont aidé les Quraishites en proposant de questionner le prophète sur trois choses. La première question était concernant l'âme. Donc ils ont demandé, qu'est-ce que l'âme de l'être humain? Et ensuite, la deuxième question, c'était qui était Zulkarnain? Ça, c'était la deuxième question. Et la troisième, c'était concernant les Ashab al-Kahf, quel groupe de jeunes a protégé la religion en quittant leur pays? Alors, pour répondre à ces trois questions-là, Allah subhanahu wa ta'ala va aider le saint prophète de l'islam. Et donc, pour la première question concernant l'âme, ce verset numéro 85 de la sourate Isra, c'est la sourate numéro 17, et le verset 85, donc Isra, le voyage nocturne, hein, le Mihraj. Et donc, vous avez ce verset qui vient, et il t'interroge au sujet de l'âme, dit « L'âme relève de l'ordre de mon Seigneur, et on ne vous a donné que peu de connaissances. » Donc, ça, c'était concernant l'âme. Ensuite, concernant Zulkarnain, donc toute l'histoire de Zulkarnain, son voyage de l'Orient vers l'Occident, puis son combat pour protéger les opprimés, etc. Toute l'histoire de Zulkarnain se trouve dans la Surat Kaf, numéro 18, la caverne, à partir des versets 83. Donc, vous avez toute cette histoire-là. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala va révéler toute l'histoire de Zulkarnain pour répondre à ce. Mais alors, pour la troisième question, Allah subhanahu wa ta'ala va donner la réponse aux Juifs en faisant descendre toute la sourate Kaf, avec toute l'histoire en détail des Esra et Kaf, des sept dormants d'Éphèse, pour justement leur dire que voilà, vous comptiez me piéger, eh bien, sachez que j'en sais peut-être plus que vous, sûrement plus que vous, et donc toute la sourate est révélée avec tous les détails de l'histoire. C'est donc comme ça que la sourate Kaf a été révélée. Maintenant, où est-ce qu'a eu lieu cet événement, d'accord? Et donc, c'était à quelle époque? Eh bien, cet événement a eu lieu dans une région de la Turquie, donc aujourd'hui connue comme Selçuk, d'accord? Je ne suis pas sûre de ma prononciation du turc, je pense que oui, mais je ne suis pas sûre. Et donc, c'était à l'époque l'Anatolie, d'accord? Et donc, Éphèse était une ancienne cité grecque qui était donc située dans cette région. Donc, c'était une région qui était très connue au niveau du cercle biblique. Donc, c'est une région, dit-on, où Bibi Mariam alayha salam aurait passé les dernières années de sa vie. Ensuite, l'on dit que Jean le Baptiste, donc Bibi Nabi Yahya alayha salam, aurait écrit ses évangiles, aurait rédigé ses évangiles dans cet endroit-là. Donc, si vous voulez, c'est un endroit qui est déjà un endroit saint, où il y a eu des événements importants. Et puis, on dit aussi que Paul aurait écrit une partie de ses lettres aux Corinthiens dans cette région-là. Donc, c'est une région qui est très connue. Et puis, d'ailleurs, ils ont construit un temple, le temple d'Éphèse. Et sous l'empire d'Alexandre le Grand, c'était l'une des sept merveilles du monde. Donc c'est une région qui est riche au niveau historique, et c'est là que s'est passée cette histoire des sept dormants d'Éphèse, d'ailleurs le nom l'indique. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc nous sommes à l'époque de l'empereur qui s'appelle Dès. C'est un empereur qui est très cruel, qui est toute la population est idolâtre, et cet empereur-là impose l'idolâtrie à toute la population. Et puis, il n'y a qu'un seul groupe de gens, un seul groupe de jeunes qui annoncent qu'eux, ils acceptent, ils ne croient qu'en un seul Dieu, qu'en un Dieu unique. Et jusqu'à présent, ils ne déclaraient pas leur foi, et puis ils déclarent leur foi. Alors, l'avantage pour ces jeunes-là, c'est qu'ils appartenaient à la noblesse, ils appartenaient à l'aristocratie. Alors, quand ils défient le roi en leur annonçant que nous, on croit à un seul Dieu, bien sûr, le roi est très choqué, mais sur le moment, il ne sait pas comment réagir, d'autant plus qu'il ne peut pas trop les contrer, ces jeunes, parce qu'il sait très bien qu'ils font partie de la noblesse. Donc, il leur dit, écoutez, je vous donne une nuit de répit et réfléchissez à... Justement, réfléchissez à vos croyances, réfléchissez à votre décision, parce que vous savez très bien que dans cette ville, dans ce pays, j'impose l'idolâtrie et vous n'avez pas le droit de n'adorer qu'un Dieu. Donc, quand le roi donne une nuit de répit, si ça aurait été d'autres personnes ordinaires, il se peut que le roi aurait tout de suite ordonné à ce qu'on tue ces gens-là, etc. Il donne une nuit de répit parce qu'il ne sait pas comment réagir face à ces jeunes. Et donc, cette nuit de répit sera une nuit qui va être très avantageuse, puisque donc pendant la nuit, ces jeunes se réunissent et prennent une décision commune. Ils se disent que de toute façon, peu importe notre statut, peu importe les familles auxquelles nous appartenons, il est sûr que le roi, qui est très cruel, ne va pas du tout apprécier le fait qu'on lui annoncera qu'on reste ferme à notre religion. De toute façon, il va nous tuer, donc il vaut mieux que nous quittions la ville et que nous protégions de ce roi. D'accord? Là, on apprend quelque chose qui est très important. C'est que, en fait, même si toute la population est idolâtre, même si leurs propres parents, à eux, à ces jeunes-là, sont dans l'idolâtrie, etc., ces jeunes-là, ils se distinguent du lot. Et parfois, certains de nos jeunes nous disent « Mais moi, je ne peux pas être pieux, je ne peux pas être religieux parce que le maro, l'environnement est tel que je ne peux pas. » Mais ici, ces jeunes nous montrent que non. Même si tout le monde n'est pas pieux, nous on se distingue. Nous on ne veut pas du tout accepter de faire partie de tout le lot, de tout le de toute la population. Donc ces gens-là décident de partir. Alors ce qui se passe pendant en cours de route, ils rencontrent un berger et son chien. Alors il y a deux versions de l'histoire. Il y a une version qui dit que le berger a adhéré au groupe parce qu'il était d'accord sur le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et puis il y a une seconde version de l'histoire qui dit que le berger était lui aussi idolâtre et qu'il n'était pas du tout d'accord avec ces jeunes, donc il ne va pas s'adhérer au groupe. Ce dont on est sûr, c'est que le chien qui était avec le berger, il va tourner, il va suivre le groupe de jeunes. Ce groupe de jeunes ne voulait pas du chien. Ils ne voulaient pas que le chien les suive. Mais le chien les suit, c'est le chien qui les suit. Et puis, dans Biharul Anwar, on trouve que le chien, Allah subhanahu wa ta'ala, lui donne la possibilité de communiquer avec les jeunes. Et il explique aux jeunes que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a ordonné de vous suivre et d'être avec vous. Parce que justement, ce chien va jouer un rôle dans la préservation des jeunes. D'accord ? Donc le chien va les accompagner jusqu'à ce qu'ils arrivent à une grotte qui se trouve donc à une montagne qui s'appelle la montagne de Rakim. Et ils décident, ces jeunes-là, de se réfugier dans cette grotte.